Roger Ferland, ex-enquêteur SPVQ, comment ça va ce matin, Rog?
Très, très bien, messieurs, en pleine forme.
Oui? Yes. Hey, t'as entendu un peu dans la voiture puis un peu en studio nos prédictions pour la première ronde des séries et la Coupe Stanley. T'as-tu une prédiction de gagnant de Coupe Stanley?
J'aurais envie de vous dire, pas en tout. Je trouvais ça intéressant de vous suivre parce que là, je vais faire mon gérant d'estrade, même que j'arrive au cégep, si d'autres profs m'en parlent. Là, OK, c'est quoi? Ben là, je suis mélangé, Hurricane, Rangers, Oilers, je sais pas. T'sais, là, je vais avoir l'air bon, mais
parle des Stars aussi, hein, une bonne saison, mais là-dedans. Là. Les Stars, hein, sont réguliers, les Stars.
Non. Il y a des moments où je suivais plus, mais pour l'instant, j'ai pas suivi le hockey pendant toutes les gars, c'est pour
ça. Tu dirais une bonne réponse là, de politicien là, serait oui. « Ah, on sait maintenant la parité qui existe dans la Ligue nationale de hockey. C'est difficile, il y a des équipes très fortes. » Puis là, après ça, on nomme les trois qu'on a, ouais. Alors, comme Hurricanes, Oilers, Rangers. Tu sais, de sport de même, ça va être...
J'aime bien ça.
Ça va être une bonne réponse pour toi.
On va jouer à ça un peu.
De politicien comme ça. Roger Ferland, OK, quelques trucs pour toi ce matin, pour notre belle discussion. Entre autres, moi, je trouve quelque chose qui est peut-être passé un petit peu... sous le radar cette semaine. On n'en a pas énormément jasé, mais peut-être qu'avec ta réponse, je vais comprendre un petit peu plus. Peut-être que c'est juste normal. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel quand même que quelqu'un haut placé, dans ce cas-ci Jean-Philippe Célestin, des gangs de rue, passe du côté puis qu'on le voit avec, en plus, son dossard, son fameux veston des Hells Angels. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive, selon ton expérience, régulièrement ou c'est quelque chose d'exceptionnel?
Est-ce qu'on l'a vu qu'une veste des Hells Angels ou une veste des Maraudeurs?
Ah! Et OK, tu vois, ça, c'est un petit bois. C'est pour ça qu'on y va d'un détail avec Roger Ferland.
Bon, je vais t'expliquer clairement, parce qu'il faut comprendre, les Hells Angels, c'est vraiment une entreprise de type américaine qui a une structure aussi solide que n'importe quelle entreprise qui a un volet international, dans le sens qu'il y a un trademark qui est en dessous de ça. Il y a une charte officielle. C'est comme des franchises que tu achètes. Alors, tu ne peux pas changer ce que tu veux comme tu veux.
Okay.
Et le fondement de fond, ça vient des États-Unis, ça a été issu à la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, de l'escadron de l'armée américaine. C'est vraiment ça. Si vous avez vu la série Son of Anarchy, il y a un fond qui est réel là-dedans. On les a commercialisés, puis on les a rendus agréables et populaires là-dedans. Mais le fond, les gars s'étaient dit, ben regarde, moi, j'étais allé faire la guerre, j'ai tué du monde, ben si tu veux dans ma gang, tu vas faire pareil comme nous autres à un moment donné. Ça a été un premier principe, mais ça n'a pas été écrit dans la charte. Dans leur charte, ils ont écrit certaines affaires, puis un des critères, ils ont marqué qu'il y aurait uniquement des gens caucasiens qui seraient membres des Hells Angels. Ils ont essayé de refaire un vote en 2006, d'élargir pour avoir des gens de d'autres communautés. Le vote international n'a pas passé.
Okay.
La demande avait été faite, entre autres, par le chapitre de Montréal. À ce moment-là, Mom Boucher parrainait ça, parce que Mom avait un club à ce moment-là, puis on prenait le terme club-école dans ce temps-là, les Rockers, c'était sa gang. Rappelez-vous, Grégory Woolley en faisait partie. Alors, il y a déjà eu des gens qui étaient racisés, autres que blancs, qui étaient avec eux. Ce qui s'est passé au fil du temps, c'est que là, en ce moment, par contre, ça ne veut pas dire qu'un club qui est supporteur ne sera pas plus gros un jour ou efficace ou plus grand qu'eux. Mais pour l'instant, les Hells ont continué à s'asseoir en haut de la chaîne alimentaire comme étant les responsables de la distribution un peu partout au Québec. Alors, les Maraudeurs, qui est une équipe de gars multiculturels, que vous regarderez qui sont les membres un jour quand on pourra les identifier clairement, c'est là qu'ils vont chercher les meilleurs joueurs des autres équipes et on en fait une équipe qui est supporteur en dessous.
Okay.
C'est ça le principe.
Ben, c'est tellement plus clair de même.
Tout à fait. Puis donc, par contre, ça veut dire que si tu es de notre allégeance, on va t'offrir également aussi une protection pour te garder dans notre équipe.
Donc, qu'est-ce que les Hells et les Maraudeurs ont à gagner à s'associer?
Parce que ça te prend des gars terrain. Ça te prend des gars qui vont aller faire la collecte. Ça te prend des gars officiellement qui font la distribution. Et ces gens-là sont généralement des gens locaux. Un bon gars du quartier qui a grandi là, qui a été un petit criminel, qui n'a pas été arrêté, je vous dirais, assez fréquemment, mais qui a réussi à monter une business. Mais là, c'est rendu un incontournable dans le secteur. Alors, ce gars-là, ben, on va y offrir une place dans l'organisation. Mais les Hells ne veulent pas nécessairement offrir une place à la table en haute direction. Alors, montre-moi que tu es un club supporter qui va bien fonctionner. Contrôle-nous ça. Paye ton pourcentage, paye ta cote, puis on te laisse opérer, puis on va te faciliter certaines entrées, certains contacts ou certains... Ils vont les faire profiter de certains avantages qu'au fil des années, les grandes structures ont réussi à développer. C'est carrément ça, en fait. Ouais. Fait que c'est pour ça que plusieurs... plusieurs petits clubs en ce moment se sont mis en place, bien, c'est eux qui font la distribution puis le travail. Si on regarde juste, voyez-vous, juste parler histoire pour histoire, dans la région de Québec, les Red Devils sont un club supporteur des Hells Angels. Mais si vous regardez historiquement, c'est plus vieux. La fondation des Red Devils est plus vieille que celle des Hells Angels.
Okay.
Fait, mais les Hells Angels ont montré un niveau de violence plus grand au fil des années. Ils ont pris la place et ont passé par-dessus. Mais ça vit encore des pays d'où ça vient, le pays d'où est-ce qu'ils, leur origine vient. Ils sont encore là en place. Là-bas, c'est eux qui dominent, mais pas ici. Okay. Au Canada, les Hells Angels, puis même au niveau mondial, ils ont réussi au fil des années à devenir une organisation internationale relativement incontournable.
Roger, Jean-Philippe Célestin, donc, passe au maraudeur. On l'a vu avec le veston.
Oui.
Corrige-moi si je me trompe. De ce que j'ai pu comprendre en lisant un petit peu là-dessus, il a comme sauté des étapes, des échelons. T'sais, parce que c'est quelqu'un qui a un nom dans le monde du crime organisé.
Oui.
Est-ce que ça arrive souvent que des gens commencent pas au bas de l'échelle dans tout l'organigramme qu'est les Hells Angels, puis on saute quelques étapes comme ça pour commencer, disons-le, un petit peu plus haut là, dans l'hiérarchie?
Ça arrive à l'occasion quand la personne a une certaine notoriété. Un peu comme vous voyez, on parlait du hockey tantôt, on ne laisse pas faire ses classes dans les clubs écoles. Ouais. Il monte directement dans la Ligue nationale.
C'est un prospect.
Ouais, c'est un prospect qui va grimper direct. Le principe est le même. Alors là, lui, ne pouvant pas être officiellement membre Hells Angels, en tout cas pour l'instant, il ne pourrait pas, là, selon si on regarde leur charte à eux, c'est peut-être la façon de l'amener tout de suite dans un club supporteur. Ou est-ce que là, c'est un joueur de notre équipe, alors on va le protéger à partir de maintenant et on le garde. C'est comme s'ils l'ont mis, c'est un de leurs protégés sous contrat. Voyez-le un petit peu comme ça. C'est vraiment de cette façon-là qu'il faut regarder le modèle d'affaires. Puis c'est parce qu'il doit rapporter, par contre, beaucoup à l'organisation. Il doit rapporter beaucoup pour ses contacts, par le territoire qu'il contrôle, par l'ascendant qu'il y a sur les gens autour de lui. Puis, encore là, je ne connais pas la charte exacte des maraudeurs. Est-ce que les maraudeurs avaient déjà dans leur club, eux autres, le principe d'une réunion mensuelle de tous les membres, prospects, hangaround? Est-ce qu'ils ont tout ça dans leur charte? Parce que les Hells Angels, il y a quatre statuts officiels. Là. Vous avez friend, hangaround, prospect et membre.
Okay.
Ça, c'est les quatre statuts de gradation que tu peux avoir. Tandis que les clubs ne sont pas tous comme ça. Oui, il y a un principe de fond qui est à respecter. Puis ce que les Hells ont réussi à faire au fil des années, bien, tous les clubs qui s'affichent un peu comme eux avec une patch dans le dos en trois morceaux, là, bien, de ce modèle-là, tu payes un pourcentage. Tu imites notre logo, alors tu vas payer un petit montant par membre que tu as. Alors certains clubs ont été obligés de défaire leur logo, de le mettre dans un seul morceau. Pour être capable, ça a l'air banal comme principe, mais là, on voulait dire, non, si tu veux jouer au gros motard, il va falloir que tu nous payes un petit pourcentage parce que c'est nous qui sommes en haut de la chaîne alimentaire.
À Québec, on a beaucoup entendu parler de Pique Turmel et des Hells. Mm-hmm. À Montréal, c'est qui l'ennemi des Hells pour que justement Célestin se retrouve à être dans leur organisation là, puis faire du travail pour eux?
Il y a plusieurs organisations dans la région de Montréal, contrairement à ce que vous aviez ici à Québec, ou est-ce que, puis même dans les régions, les motards. La distribution, c'est eux qui la contrôlent. Mais quand vient le temps de faire les routes d'importation, les Hells en ont, mais beaucoup d'autres organisations en ont. La mafia italienne en a depuis des années. Vous aviez la mafia libanaise qui était très, très, très efficace à Montréal. Vous avez certaines autres organisations. N'oubliez pas le volet des Irlandais depuis des années là, dans le port. Il y a beaucoup d'autres organisations. Ils font face à une multiculture. La communauté asiatique est extrêmement forte aussi. Si vous allez dans la région de Vancouver, vous allez voir qu'on change de braquette. Le port là-bas, il est plus asiatique, contrôlé par eux. Fait que c'est pour ça qu'il y a des échanges qui se font à ce moment-là au niveau des leviers. On sait ces choses-là, mais on n'est pas capable toujours de les arrêter. On l'a par information, mais de là à être capable de le faire. C'est pour ça qu'il faut rester aux aguets, nous autres, mais être capable de faire ce qui se fait en ce moment. Comme j'ai vu ces derniers jours au Saguenay, le chef de police a levé un petit peu la main de parler à son public, de dire, regardez, là, deux secondes, voici ce qui se passe, là. C'est pas inquiétant outre mesure, mais on a besoin de vous autres publics pour nous dire qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a un paquet de crimes qui se déroulent en ce moment, qui sont neufs. les par arme à feu dans la région juste du Saguenay, ça, juste en, on est rendu à 9 cas de, par arme à feu. Ouais. On en a eu 13 l'an passé dans l'anneau complet. Il y a juste 4 mois de passé. Non, si on continue, ça va être énorme cette année ce qu'il va y avoir. C'est pour ça que c'est le genre de crime qu'il faut que tu agisses, mais ils ont beaucoup de concurrence dans la région de Montréal, trompons-nous pas.
Hey, Roger Ferland, quelques questions sur un autre sujet d'actualité cette semaine. On a vu et lu une certaine situation de vol de voiture. Bon, il y a un individu qui décide de transformer ou utiliser la voiture comme arme et foncer sur les policiers. On ouvre le feu sur cet individu-là. On le touche aussi avec quelques balles. Sais-tu dans la pratique, sais-tu qu'est-ce qu'on enseigne aux policiers si un suspect ou un criminel potentiel utilise, dans ce cas-ci, une voiture comme arme, qu'on peut ouvrir le feu sur cette personne-là?
C'est pas de cette façon-là que c'est présenté. La façon qu'on forme les policiers, c'est de leur dire, t'es là pour protéger ta vie, protéger la vie des citoyens, puis si tu penses que dans... Puis après ça, tu protèges les biens. Mais si tu penses que pendant un instant, tu, dans ton analyse, tu considères que la vie de quelqu'un va être prise, là, t'as le droit d'utiliser la force pour réagir. Puis c'est pour ça que l'article 25 du Code criminel, qui permet de faire usage de la force, vient aussi être balisé rapidement par l'article 26 du Code criminel qui dit tu n'as pas le droit, par contre, de faire la force abusive.
Okay.
Alors, tu te dois toujours de doser. Fait que ce qu'on explique souvent à ces policiers, la pression dans laquelle ils ont, c'est que tu as un temps de réaction. Je ne veux pas prendre des acronymes là, qui sont là en ne prenant pas de la force, mais c'est quand même ça. Tu as une perception, une analyse, une prise de décision puis une action. Ça prend, même si tu es pratiqué, on parle d'environ 2,4 secondes pour que le cerveau se fasse et se mette en place.
Aïe, aïe.
Fait que c'est pour ça que quand il y a une action qui se déroule, analyse rapidement. Puis si tu n'as pas pratiqué, ça vient un peu comme des réflexes. Alors, quel geste tu peux faire? On pourrait se tasser dans l'avant du véhicule. Mais si tu te tasses en avant du véhicule, puis que le véhicule continue, puis qu'il y a des gens derrière, tu le laisses aller. C'est pour ça que c'est toute cette analyse-là. Là, je donne une hypothèse, mais il y en a plein, là. On demande aux policiers, c'était quoi la perception que tu avais? Comment tu as analysé ta situation? Puis quelle action tu as pris après? Je vous résume ça rapidement. C'est beaucoup plus complexe que ça, parce que voyez-vous, là, le policier a fait feu. Il a pris sa décision. Il est enquêté au BEI en ce moment. On va prendre le temps d'aller chercher les caméras urbaines, regarder ses communications radio, qu'est-ce qu'il a dit à son confrère, qu'est-ce qui s'est passé. Là, il y a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête pour savoir, as-tu pris la bonne décision en 2-3 secondes pour agir, alors que nous, on va prendre quelques semaines, pas dire des mois, pour analyser ton geste. C'est pour ça qu'on est dans cet écart-là. C'est pour ça qu'il faut amener à les penser dans une logique et non juste recette officielle. T'es toujours en train d'aller.
C'est la même logique que tu nous expliques les poursuites policières.
Ouais, même principe, les gars.
Pour finir, il est arrivé quelque chose cette nuit à Québec où il y a un accident. Puis là, quelqu'un appelle au 911, puis là, dit « Ouais, il y a un occupant de ce véhicule qui est parti en courant. Les policiers arrivent. Le conducteur est encore là. Fait des recherches. On retrouve pas le gars qui est parti en courant. » Est-ce que dans ce cas-là, le conducteur et entre guillemets, obligé de parler aux policiers pour que tu essaies d'avoir des informations? Parce que là, tu te demandes, voyons, pourquoi ce gars-là est parti en courant, cet individu-là? On ne sait pas si c'est un gars de femme.
Quand tu me le dis comme ça, vitement, la réponse, c'est non. Il n'y a aucune obligation parce que tu ne peux pas obliger quelqu'un à s'incriminer. Mais si tu es capable de demander, bon, de faire comprendre qu'il est témoin d'une action, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, on est justifié de poser des questions. Mais à partir du moment où tu seras convaincu qu'il y a un crime, là, c'est un autre paire de manches. Tu es obligé de faire la mise en garde et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est le genre de situation où c'est sûr qu'on va essayer d'interroger la personne, c'est sûr qu'on va essayer, mais l'obligation finale, à moins que tu puisses justifier que la vie de quelqu'un est en jeu, non, tu ne pourras pas.
Okay.
C'est ça qui est l'enjeu. On est vraiment limité. J'aimerais bien être d'infime dans ces moments-là.
Mais malheureusement, c'est la réalité.
Hélas, non.
Ouais. Oh. Roger Ferland, ex-enquêteur du SPVQ, enseignant en technique policière, Cégep Garneau. Tu sais que c'est toujours un plaisir quand tu passes nous voir. On apprécie énormément. Et là, maintenant, tu sais quoi dire dans ta discussion de play-off de la Ligue nationale de hockey quand tu vas être au Cégep tantôt.
Merci, messieurs. Vous me guidez agréablement.
On se parle bientôt, Roger.
Salut, Roger.
Allez, bonne fin de semaine. Thank you.